Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Cuisiner l'histoire » est un ouvrage de cuisine documentaire signé par Thibaut Vianova, connu sous le nom de GastronoGeek, et Benjamin Brillo, créateur de Nota Bene. Publié chez Hachette et Rose, le livre propose 35 recettes inspirées par de grandes figures, des périodes et des lieux marquants de l'histoire. Plutôt qu'une reconstitution stricte de la cuisine d'époque, l'intérêt du livre tient précisément à ce positionnement hybride. Chaque recette est pensée comme une évocation gourmande, accompagnée d'un éclairage historique court qui replace le plat dans son contexte. Là ensemble, elle s'adresse autant aux lecteurs attirés par la gastronomie qu'à ceux qui aiment la vulgarisation historique accessible. Avec son format illustré et son organisation chronologique, l'ouvrage transforme l'histoire en expérience culinaire concrète. Sans prétendre à l'exhaustivité académique, il offre ainsi une porte d'entrée originale pour découvrir des personnages et des époques à travers ce qu'ils auraient pu manger. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une rencontre entre vulgarisation historique et cuisine créative. Le livre repose sur la complémentarité de deux univers bien identifiables. Benjamin Brillo apporte la dimension de vulgarisation historique avec un travail de mise en contexte simple et lisible, tandis que Thibaut Vianova mobilise son savoir-faire de créateur de recettes inspiré par la pop culture et la cuisine thématique. Cette alliance n'est pas décorative, elle structure ensemble de l'ouvrage. L'histoire n'est pas traitée comme un simple prétexte narratif, et la cuisine ne se réduit pas à une illustration. Chaque partie du livre fait dialoguer les deux approches pour produire un objet lisible par un large public. Ce choix éditorial permet de faire coexister rigueur de l'intention et accessibilité du ton. Le lecteur n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre le principe du livre, mais il y trouve suffisamment de matière pour percevoir les liens entre contexte historique et invention culinaire. C'est cette articulation qui donne au projet sa singularité dans le paysage des livres de cuisine thématique. Deuxièmement, des recettes classées par ordre chronologique pour traverser les époques, l'organisation chronologique constitue l'un des ressorts les plus importants du livre. En classant les recettes selon les périodes ou les figures évoquées, les auteurs transforment un recueil culinaire en parcours historique. Le lecteur passe ainsi d'un contexte à un autre en suivant une progression qui aide à situer les références dans le temps. Cette structure renforce la dimension pédagogique de l'ouvrage, car elle permet de voir comment les imaginaires culinaires changent selon les siècles, les territoires et les personnalités. Le livre ne cherche pas à imposer une histoire linéaire de la gastronomie mondiale, mais à faire sentir des époques à travers des plats évocateurs. Cette logique de traversée chronologique rend la lecture plus dynamique qu'un simple catalogue de recettes. Elle facilite aussi la mémorisation des repères historiques, puisque chaque préparation devient associée à un personnage ou à un moment identifiable. On comprend alors que la forme du livre sert directement son ambition de vulgarisation. Troisièmement, le principe de la recette inspirée plutôt que la reconstitution historique. L'un des apports essentiels du livre est de clarifier sa méthode. Il ne s'agit pas d'un manuel de cuisine historique strict, mais d'un livre de cuisine inspiré par l'histoire. Cette nuance est importante, car elle évite une promesse impossible à tenir avec exactitude pour des périodes où les sources culinaires sont lacunaires. Les recettes imaginées par GastronoGeek ne prétendent donc pas reproduire fidèlement ce que l'on servait à une table donnée. Elles cherchent plutôt à traduire une ambiance, une période ou une personnalité par des choix de goût et de texture. Cette liberté créative permet une plus grande variété de plats et une lecture moins académique du sujet. Elle rend aussi le livre plus praticable pour un lecteur domestique, puisque les recettes sont pensées pour être réalisées chez soi avec des indications claires. Le résultat est un compromis efficace entre imagination culinaire et évocation historique, qui donne au livre son identité propre face aux ouvrages purement documentaires. Quatrièmement, un objet illustré, pensé pour séduire autant que pour informer. Le livre se distingue aussi par son travail éditorial et visuel. Les sources consultées soulignent la qualité de la présentation, des illustrations et de la mise en page, ce qui montre que l'expérience de lecture a été pensée comme une partie intégrante du projet. Dans un ouvrage de cuisine, cet aspect n'est pas secondaire, il influence la compréhension des recettes, l'envie de cuisiner et l'intérêt porté aux propos historiques. Ici, la maquette soutient l'alternance entre les pages de contexte et les pages de préparation, de sorte que le lecteur circule facilement entre information et pratique. Cette esthétique soignée contribue aussi à faire du livre un objet de collection ou de cadeau, ce qui élargit son usage au-delà de la simple consultation utilitaire. L'illustration n'est donc pas seulement décorative. Elle participe à la lisibilité, à l'immersion et à la valorisation des recettes. C'est un élément clé de la réception positive de l'ouvrage, souvent décrit comme beau, bien fini et agréable à feuilleter. En dernier lieu, une porte d'entrée accessible vers l'histoire par la table, la force du livre tient enfin à sa capacité à rendre l'histoire concrète sans la simplifier à l'excès. En partant de ce que des figures historiques auraient pu manger, il crée un point d'entrée familier vers des sujets parfois éloignés du quotidien du lecteur. L'alimentation devient un moyen d'évoquer le pouvoir, les voyages, les guerres, les échanges culturels ou les modes de vie. Cette approche est particulièrement utile pour un public curieux, mais pas nécessairement spécialiste, car elle associe apprentissage et plaisir de lecture. Le livre peut aussi servir dans un cadre familial ou convivial, puisque les recettes invitent à une appropriation pratique du contenu. Son intérêt intellectuel vient de là, il montre que la culture matérielle, et en particulier la nourriture, peut raconter l'histoire autrement que par les grands événements. En ce sens, l'ouvrage fonctionne comme une médiation entre savoir et usage, entre curiosité historique et gestes culinaires concrets. En conclusion, Cuisiner l'histoire s'adresse en priorité au lecteur, qui aime cuisiner tout en s'intéressant à l'histoire, à la culture populaire et au format de vulgarisation accessible. Il conviendra aussi à ceux qui cherchent un livre de cuisine différent, moins centré sur la performance technique que sur la narration, le contexte et l'évocation. Son principal intérêt pratique est de proposer des recettes réellement exploitables à la maison, accompagnées d'un cadrage historique qui donne du sens à ce que l'on prépare. Son intérêt intellectuel est tout aussi net. Il rappelle que la nourriture peut servir de porte d'entrée vers des personnages des époques et des imaginaires très variés. Ce qui le distingue de nombreux ouvrages similaires, c'est la solidité de son duo d'auteurs et la clarté de son positionnement. Il ne promet pas une restitution académique de la cuisine d'autrefois, mais une interprétation documentée et créative de l'histoire par la cuisine. Cette honnêteté éditoriale, combinée à une présentation soignée, en fait un livre à la fois ludique, lisible et singulier dans sa catégorie. Si vous souhaitez soutenir Thibaut Villanova, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !